Sandra, Alice Rougeat.
Bonjour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Europe fait face à une vague migratoire sans précédent. Mais les ressortissants ukrainiens ne sont pas considérés comme de simples migrants. Les 27 États membres de l'UE leur ont accordé un statut spécifique. Ils bénéficient de ce qu'on appelle une protection temporaire. Ainsi, ils peuvent rester au moins un an sur le sol européen, tout en y travaillant, le tout sans avoir besoin de passer par les procédures d'asile habituelles qui peuvent être très longues. Grâce à ce statut, les enfants ukrainiens ont aussi pu reprendre le chemin de l'école. En France, on estime qu'ils sont environ 10 000 à être scolarisés, dont 4 000 à l'école primaire. Des enfants qui ne parlent pas la langue et doivent apprendre un nouvel alphabet. En région parisienne, Laurence Théo a fait la rencontre d'Anna et Arsène. Son reportage.
Il s'est produit un événement à l'école primaire Paul Langevin, en région parisienne. L'arrivée d'une petite Ukrainienne dans la classe de CP. Ruban dans les cheveux, des yeux vifs de petit écureuil, un sourire qui s'ouvre sur des dents qui poussent, Anna, 6 ans, a quitté la ville d'Odessa et un pays en guerre. Ses camarades et l'enseignante Nelly Ogérias l'ont accueillie chaleureusement.
Moi, j'aime bien les gens qui ont des cheveux blonds. Aussi, j'aime bien Anna.
Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle est arrivée, Nicolas?
Quand elle était arrivée, elle avait pleuré des fois quand elle est venue.
Nicolas, est-ce que tu as compris pourquoi elle pleurait?
Bah oui, parce qu'elle voulait sa maman.
La séparation avec sa maman était difficile au départ. Elle pleurait beaucoup le matin. Il faut dire qu'en classe, le principal, c'était pas les apprentissages, c'était vraiment qu'elle se sente bien.
La fillette est arrivée il y a 3 semaines et spontanément, les enfants ont su communiquer entre eux.
On lui fait des signes. On a appris des mots en français à Anna.
On se risque alors à une démonstration en confiant le micro aux écoliers.
Anna dit papa.
Anna dit papa.
Je peux essayer.
Anna dit maison.
Anna dit maison.
Des petites choses faciles. On essaye.
Ra-ki-ho.
Est-ce que tu te rappelles ce mot-là quand on a appris à jouer au tennis avec une...
Raquette.
Oui.
Toutes les méthodes sont bonnes pour apprendre le français. Nelly Ogérias, enseignante.
On voit les lettres de l'alphabet, les sons et des petits mots avec l'aide d'images. L'acquisition du vocabulaire se fait essentiellement par tous les rituels du matin et de l'après-midi, à travers les activités de sport. Elle apprend beaucoup en regardant ce que font les autres.
En ce début d'après-midi, Anna est accompagnée par sa maman. De l'exode, de tout ce qui s'est joué avant, l'équipe enseignante sait peu de choses. Face au déracinement, au traumatisme, l'école peut jouer un rôle de cocon, une parenthèse pour l'enfant.
Les enfants de la classe savent ça aussi, savent que c'est du coup compliqué pour Anna de repartir de zéro. Elle n'a pas voulu être ici en France. On travaille beaucoup en début d'année sur la différence. Et ils le savent, les enfants, que c'est une vraie richesse d'avoir quelqu'un de différent.
Je vais la continuer après.
Le directeur Pierre Gambini a ouvert les portes de son école avec beaucoup de générosité et d'empathie. Selon lui, des enfants comme Anna n'ont pas tout à fait conscience de la guerre qui sévit dans leur pays.
Je crois qu'ils sont trop petits pour ça. L'intégration est étonnante, parce que cette capacité qu'ont des enfants qui ont vécu des choses quand même terribles arrivent au sein d'une école française et finalement se font très vite des amis, commencent à parler en français, disent des mots à une vitesse assez incroyable.
Ces enfants ont vocation à rester?
J'ai l'impression que c'est transitoire quand même, parce que c'est vrai que leur vie n'est pas ici. C'est important qu'ils conservent leur langue et qu'ils parlent encore en ukrainien avec leurs parents. En étant en France, le but n'est pas d'oublier ni ses origines ni sa langue. Et c'est essentiel de maintenir la culture, je crois, c'est très important.
Feuille. J'ai pas dit feuille. Si je dis feuille, c'est dans quelle colonne?
Du haut de ses 9 ans, Arsène, lui, a trouvé sa place dans la classe UP2A pour élèves allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est pas le français. Le matin, il suit des cours en ligne avec sa maîtresse ukrainienne et l'après-midi, il étudie avec ses camarades moldaves, algériens ou péruviens. Lydia Blasco enseigne à tout ce petit monde.
Mis à part le fait effectivement les alphabets ne sont pas les mêmes, donc on ne va pas travailler du tout de la même façon, pour un enfant qui vient d'Ukraine, dont l'alphabet est cyrillique, et un enfant qui vient d'Amérique latine, où là, l'alphabet sera latin. Donc, il va falloir s'adapter en fonction des provenances, en fonction de l'âge des enfants, en fonction des acquis de leur pays. Ils ont déjà des bases solides, souvent. Il suffit juste ensuite de savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur pays, pour ensuite, nous, soit poursuivre, soit compléter s'il y a besoin, et surtout, donner les mots en français pour qu'ils puissent suivre dans leur classe d'inclusion.
Arsène, ты хочешь сейчас о себе что-то сказать, но на украинском языке? Хочешь?
Ce qui est touchant, c'est que les élèves s'entraident. Madalina est moldave. Elle vient au secours d'Arsène.
C'est bien parce qu'un peu de ça, il y a aussi beaucoup d'infos qui peuvent aider. Par exemple, moi, quand je parle un peu en russe, j'ai pu aider aussi Arsène parce que je sais aussi russe.
Arsène, c'est quelle couleur?
Violet.
Violet, très bien. Alors, hop, on le collera tout à l'heure. Et là?
Rouge.
Très bien. Tu vas retrouver les mots, ici. Tu vas colorier chaque mot de la bonne couleur.
De la patience, de l'écoute, de l'exigence et beaucoup de bienveillance, Lydia Blasco prend le temps qu'il faut avec Arsène, petit garçon doux et timide.
Oui, vas-y, tu peux colorier. Tu peux colorier. Il est très volontaire et il est rentré tout de suite dans les apprentissages parce qu'il a vraiment envie, il a toujours le sourire, il a toujours envie de faire.
Quand sonne la récréation, Arsène n'a qu'une hâte, retrouver ses copains et peu importe l'affinité linguistique.
Des moucherons à écraser, une société de traîtres à purifier. C'est en ces mots que le régime Poutine parle de ceux qu'il considère comme ses adversaires. Un mois et demi après l'adoption d'une loi qui punit jusqu'à 15 ans de prison, la diffusion d'informations jugées fausses sur l'armée russe, afficher son opinion et son opposition à la guerre est devenu très risqué. À Moscou, notre correspondante Estelle Levresse raconte cette chasse aux sorcières.
Selon VD Info, une des rares organisations indépendantes qui lutte contre la répression en Russie, plus de 1000 dossiers judiciaires ont déjà été ouverts au titre de cette nouvelle loi. À Ivanovo, Dmitri Silin est poursuivi pour avoir distribué des exemplaires gratuits du livre de George Orwell, 1984. Un geste qui, selon les autorités, a discrédité l'action des forces armées. Ces dernières semaines, attaques et dénonciations se multiplient dans le pays. Portes taguées du mot traître ou du signe Z de ralliement au régime, traque des professeurs déloyaux dans certaines universités, liste noire et appel à délation publiés sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs régions, les habitants ont même reçu des SMS ou des messages dans leur boîte aux lettres, les invitant à fournir des informations sur les activités antipatriotiques de leurs voisins. Une terrible chasse aux sorcières dont l'habitant d'un petit village du sud de Saint-Pétersbourg a fait les frais. Dmitri Skourikin, citoyen engagé, utilise la façade de son petit magasin depuis des années pour exposer des messages d'opposition au régime de Poutine. Récemment, il a inscrit une liste des villes bombardées en Ukraine et a accroché de grandes affiches montrant ces villes en ruine. Mais il y a deux semaines, un tas de fumier trônait devant sa porte, assorti du mot traître écrit plusieurs fois sur les murs. Il y avait aussi des messages collés sur la porte. On ne pardonnera pas le nazisme. Tous les traîtres à la patrie seront punis. Selon lui, les coupables sont trois jeunes qui ont agi masqués et de nuit. Des Russes sans doute encouragés par ce contexte de délation voulu par les autorités.
Autre victime de cette loi contre les soi-disant fake news, et peut-être en première ligne, les journalistes. À l'heure actuelle, plus de 200 journalistes indépendants ont dû fuir la Russie, un pays où les médias libres n'existent plus ou alors émettent depuis l'étranger. C'est le cas de la chaîne de télévision Dojd. Sa diffusion a été suspendue en mars, mais ses journalistes continuent leur travail depuis leur pays d'accueil, où ils projettent d'ailleurs la création de nouveaux bureaux. Denis Kataïev est l'un d'eux. Il témoigne au micro de Martin Chabal.
Moi, je suis sûr que cette loi a été adoptée contre les journalistes indépendants. C'est pourquoi j'ai décidé de quitter la Russie, et mes collègues aussi. La plupart de mes collègues se trouvent en Géorgie. Évidemment, en Russie, pour l'instant, il n'y a pas de vrai journalisme et de liberté d'expression. On voudrait continuer à travailler d'ici en Europe pour informer les gens en Russie parce qu'on ressent le besoin et la demande d'informations indépendantes en Russie. Il y a beaucoup de gens qui restent en Russie pour l'instant, parce que en fait c'est un privilège de quitter la Russie. C'est pourquoi on sent le besoin d'informations. Juste après le début de la guerre, on diffusait H24. Mes collègues ont dormi au studio. On se reliait toujours et on a obtenu plus de 25 millions de vues sur YouTube par jour. C'est beaucoup, c'est pourquoi on a gagné une grande audience. C'est différent de l'agenda, c'est différent de la propagande qui existe en Russie, bien sûr.
Dans 10 ans, flâner sur les plages catalanes ne sera peut-être plus possible. L'effet du réchauffement climatique sur ce littoral trop bétonné, c'est que les plages s'érodent et disparaissent. Or, dans cette région d'Espagne, le tourisme sur le littoral génère 12% du PIB et 14% des emplois directs. Alors, pour ne pas voir l'économie s'effondrer, les autorités reconstruisent au grand dam des scientifiques. Non loin de Barcelone, un reportage d'Élise Gazangel.
Depuis la fenêtre du train de banlieue R1, seuls les touristes contemplent la mer Méditerranée. Les habitués, eux, ne la regardent plus. Le train s'éloignant de Barcelone, les plages deviennent moins visibles et les vagues se rapprochent fortement des voies. La mer dévore le littoral catalan et cette érosion s'accélère avec le réchauffement climatique. Montgat, à 15 km de la capitale catalane, Andreu Abzil est le maire de la ville.
Ça, c'est la plage des Rocas, ou du moins ce qu'il en reste. Des 7 plages qu'on avait à Montgat, il n'en reste plus qu'une entière, celle des Barcas. Ici, c'était le passage maritime, mais il est complètement détruit depuis la dernière tempête.
Selon les scientifiques, la situation est critique. L'érosion touche la plupart des plages de la région. Or, dans 60% des cas, les 100 premiers mètres de côte sont urbanisés. Et parfois, l'espace entre l'eau et les constructions ne dépasse pas les 50 mètres. Carles Ibáñez est chercheur et biologiste pour le Conseil d'assesseurs pour le développement durable de Catalogne.
C'est la combinaison de l'aggravation de l'intensité et de la fréquence des tempêtes, l'interférence des infrastructures sur la côte, de la diminution de l'apport des sédiments et aussi de la dynamique naturelle de l'érosion qui touche chaque tronçon de côte.
Le problème n'est pas récent, mais il est de plus en plus visible et les solutions apportées par les administrations locales ne semblent pas avoir l'effet escompté.
Souvent, le problème, c'est qu'après les tempêtes, on fait des actions considérées d'urgence. Mais cette urgence va contre le développement durable et contre l'intérêt public. Il vaudrait mieux investir et réfléchir sur le long terme plutôt que de reconstruire aussitôt ce qui a été détruit. Il faut arrêter ce modèle court-termiste.
À Montgat, justement, le maire vient de signer la réparation de la promenade pour cet été, alors que les vagues continuent de battre la côte. Il place tous ses espoirs dans le plan du ministère de la Transition écologique en cours de rédaction, un plan qui prévoit le maintien de ces plages. Le port situé en amont retient sédiments et sable, mais le dragage n'est pas suffisant pour remblayer les plages qui disparaissent.
Montgat devrait avoir 5 barres de plage. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un. Avec les clients, les plages étaient animées et ça a alimenté le commerce dans toute la ville. Sans plage, plus de barres et plus de clients. Ça signifie un grave impact socio-économique.
Pour la biologiste et directrice du MEDPAN, le réseau méditerranéen des espaces marins protégé pour Ricanals, cette dépendance économique au tourisme devrait réveiller les consciences.
On ne peut pas consolider la côte. Ça, c'est la connerie des politiciens. C'est son rêve. Et puis, parce que là, ils investissent un certain nombre de millions, ils font des travaux publics, ils vont les montrer, ils vont être reconnus. Et comme ça, ils vont perpétuer un modèle absolument pas durable au lieu de faire face aux vrais problèmes.
Des problèmes que dénonce aussi Sergi Galano, porte-parole de la plateforme Preservem El Litoral del Maresme, dans son atelier de fabrication de planches de surf en bois à Premia de Mar, 10 km plus haut. Il se désespère du nouveau plan de la mairie de construire des digues et d'apporter des milliers de tonnes de sable supplémentaires.
On est réellement dans un moment d'urgence climatique et on dirait que tout le monde en est conscient, mais ils le font quand même. Alors que tous les scientifiques, sans exception, trouvent que c'est une une aberration. Au final, ce sont juste des décisions politiques prises en vue des prochaines élections, et ça, c'est triste.
Malgré les mobilisations, les travaux devraient commencer en octobre.
Le jour où on aura une grosse tempête qui détruira la voie de chemin de fer, imaginez les dommages et le coût. Ce sera des millions. Alors ok, déplacer la voie plus à l'intérieur des terres, c'est cher, mais il faudrait penser aussi au coût social et économique qu'aura le prochain orage. Mais comme le maire ne pense qu'aux élections de l'an prochain, eh bien forcément, il continue.
Fíjate las escaleras como no llegan ni abajo, están encima de las rocas, ¿sabes?
À Montgat Nord et Premia, les escaliers mènent à des rochers. Il y a à peine 3 ans, ils permettaient de descendre sur la plage. D'ici 2035, on estime que la moitié des plages catalanes subiront le même sort, et ce sont les prévisions les plus optimistes. Quant au chemin de fer de la ligne la plus vieille du pays, qui transporte plus de 100 000 passagers par jour, il est destiné à disparaître. La mer reprendra un espace qu'elle n'aurait jamais dû perdre, et les Catalans devront s'adapter.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
Et de la musique avec vous, Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Alice, bonjour à tous.
Cette semaine, vous nous faites entendre le groupe suisse Honey for Patsy.
Un peu de poésie surréaliste aujourd'hui avec le nouvel album d'un groupe suisse qui était en sommeil depuis 10 ans, Honey for Patsy. Formé à Lausanne à la toute fin des années 90 par 3 étudiants en art, le groupe a publié 5 albums en 10 ans dans le registre d'un rock brut de décoffrage et souvent très nerveux. Honey for Patsy sort aujourd'hui de sa longue hibernation avec un 6e album électrique, éclectique et bondissant intitulé Observation plus Description. Il regroupe une 12aine de chansons au rythmique et sonorités très affûtées pour beaucoup. Et c'est une nouveauté écrite en français.
Accent d'Europe, Donatien Cahu à la réalisation. Et si on vous manque ce week-end, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci et à lundi.